Le Seigneur soit avec vous.
Avec
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le huitième jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Nous entendons à l'instant la suite du récit de Luc, dont le début était donné dimanche dernier à la messe de la nuit de Noël. La façon dont Jésus était né dans une étable avait été déposé dans une mangeoire et la façon dont les bergers avaient été prévenus, et ici on nous les montre. Et c'est assez curieux, quand on regarde de près ces petits versets de Luc, on s'aperçoit que les bergers au fond sont des personnes tout à fait bavardes. Ils n'arrêtent pas de bouger, de dire, de raconter, de voir, de découvrir. Les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem. Ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent. Et tous ceux qui les entendaient s'étonnaient. Et Marie se trouve placée au milieu et elle est en silence. Elle ne dit rien. Elle médite dans son cœur. Marie, cependant, retenait tous ces événements. Elle les méditait dans son cœur. Elle nous est présentée comme contemplative. Elle accueille et elle cherche à mettre en relation avec précisément les annonces qu'il y a dans l'Ancien Testament. Les bergers, il est bien dit qu'ils ont raconté ce qui leur avait été annoncé et qu'ils avaient vu. Autrement dit, maintenant, c'est le temps des réalisations, des annonces qui étaient faites et qui viennent d'être faites. Et après nous avoir montré Marie qui est ainsi en silence, en contemplation intérieure, le récit reprend en disant « Les bergers repartirent et ils glorifiaient et ils louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu selon ce qui leur avait été annoncé. » Voilà, donc les bergers prennent une grande place très active et très bavarde, et Marie est située là, au milieu, très discrète, très silencieuse, avec la marque du cœur. Elle méditait dans son cœur. C'est pour ça que fréquenter Marie à travers la récitation des mystères du chapelet, c'est quelque part avoir accès au cœur de Marie, où il y a une méditation et un regard sur les annonces qui sont faites dans l'Ancien Testament, dans la parole de Dieu. C'est avoir un accès privilégié à la parole de Dieu à travers le regard de Marie, à travers la contemplation de Marie. Quand on s'approche du cœur de Marie, ce n'est pas pour adorer Marie, oh là, certainement pas, c'est pour précisément regarder Jésus avec elle, contempler Jésus avec elle et recevoir cette méditation de la parole de Dieu qui est en elle, et nous enrichir ainsi à son contact. Une deuxième petite chose que nous pouvons souligner, peut-être, c'est la façon dont Paul, dans la seconde lecture qui a été choisie dans la liturgie, et qui est un passage de la lettre aux Galates, nous dit que Dieu a envoyé son Fils né d'une femme. C'est la seule mention de la Vierge Marie dans toutes les lettres de Paul. Et encore, ce n'est pas plus explicite que cela, parce que « né d'une femme » dans la Bible, ça veut dire « comme tout le monde ». Donc Jésus est homme comme tout le monde. Et alors, on sent que Paul est tellement marqué par la nouveauté que Jésus a apportée pour nous délivrer du fardeau de la loi. Il nous dit, il est né comme tout le monde, soumis à la loi de Moïse, mais afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi. On sent que pour lui, la loi, c'est finalement un pédagogue pour faire ce que Dieu nous demande, mais en même temps, ça reflète une très mauvaise image de Dieu et un très mauvais rapport avec Dieu. Et maintenant, avec la présence de Jésus, vraiment, on a accès à autre chose. On est fils. Jésus fait de nous des frères et nous sommes fils du Père avec lui. Et Paul ajoute, voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'esprit de son fils dans nos cœurs. Et cet esprit crie, Abba, Papa. Tu n'es plus esclave de l'observance de la loi, mais tu es fils. Et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Ça aussi, c'est un refrain de Paul. C'est l'œuvre de Dieu. Voilà. Dieu agit et nous recevons ce qu'il fait. Enfin, terminons peut-être avec ce passage du livre des Nombres en première lecture, où il est question de la bénédiction de Dieu. Et l'auteur du livre des Nombres qui parle ici met dans la bouche de Moïse un ordre de Dieu, voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël, que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il te prenne en grâce, qu'il t'apporte la paix. La bénédiction de Dieu, c'est à la fois un état et puis un désir que nous devons avoir. Un état, les psaumes le reprennent en disant « Dieu nous bénit ». C'est d'ailleurs ce qu'on a dans le psaume, dans la troisième strophe. « Dieu, notre Dieu, nous bénit ». Voilà, c'est sûr, nous sommes bénis par Dieu. Paul a dit « Nous sommes fils ». Voilà. C'est un état, la bénédiction de Dieu. Nous sommes bénis par Dieu. Il y a dans l'Ancien Testament, dans le livre de Zacharie, je crois, un petit verset très curieux, très amusant, où le prophète dit « Il y a une époque où les temps seront tellement difficiles que les personnes, quand ils verront un juif, s'accrocheront au pan de son manteau en disant « Nous venons avec toi parce que nous savons que Dieu est avec vous. » En parlant des étrangers qui s'accrocheront. « Nous venons avec toi parce que nous savons que Dieu est avec vous, les juifs. » La bénédiction, c'est ça. Nous sommes bénis par Dieu et au fond, ça peut être aussi l'un des regards que ceux qui nous entourent portent sur nous. Ah, il a la foi, elle a la foi, il pratique. Dieu a une place dans sa vie. Bon, c'est quelque chose que je ne connais pas, mais je constate. Il est dans un état de bénédiction. Et deuxièmement, c'est un désir que Dieu nous bénisse. Le psaume dit « Dieu, notre Dieu, nous bénit ». Puis en même temps, on trouve des invocations dans la Bible « Que Dieu nous bénisse, que le Seigneur te bénisse », comme on entend ici au livre des Nombres. Et là, cette exclamation exprime le désir. « Seigneur, tu nous as bénis, viens nous bénir encore ». Et c'est peut-être le désir que nous pouvons porter en ce début d'année, pour nous-mêmes, pour nos proches, pour notre paroisse, pour notre pays, pour le monde. Seigneur, viens nous bénir encore à travers ta miséricorde et ton amour, que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Est-ce qu'on peut rechanter pour terminer ce refrain du psaume? Au fond, ce serait un petit exercice pratique. Demandons au Seigneur de nous bénir.
Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse.
Demandons encore une fois.
Que Dieu nous